Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h temps universel. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont très nombreuses ce matin après l'arrestation au Tchad de l'opposant Succès Masra. Depuis vendredi, l'ancien Premier ministre est en garde à vue. Il est accusé d'avoir diffusé un audio incitant à la haine. Un audio qui, selon le procureur et les autorités, serait responsable d'affrontements intercommunautaires la semaine dernière dans le sud du pays. Ce matin, Succès Masra devrait être entendu par les enquêteurs. En tout cas, ses avocats dénoncent une cabale politique. Que vous inspire cette affaire? Quelles peuvent être les conséquences politiques de cette arrestation? On en parle, vous avez la parole. 33 9 693 693 70 et vos commentaires très nombreux sur le compte WhatsApp de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer justement avec des questions sur l'arrestation de l'opposant Succès Masra. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Juan, et ravi de vous accueillir à Galanali, une localité à 10 km de Ngouri.
Très bien. Ngouri, c'est dans la région du lac Tchad, si je ne m'abuse.
Effectivement.
C'est bien ça. Bah, soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. On vous écoute.
Oui, Succès Masra est accusé d'être à l'origine d'un audio lié au massacre à Mandakao dans la province de l'Ogone occidental, au sud du Tchad. À ce sujet, j'aimerais savoir pourquoi les avocats font référence à un audio datant de 2023. Et que disait-il à l'époque?
Oui, c'est vrai que les avocats de Succès Masra assurent que cet audio remonte à mai 2023 et qu'en aucun cas il ne peut être lié au massacre de la semaine dernière. Bonjour Victor Moria.
Bonjour Juan et bonjour Moussa.
Correspondant de RFI à N'Djamena, expliquez-nous Victor, l'audio en question date donc de 2023?
Alors, pour bien comprendre, il va falloir reprendre la chronologie des événements qui se sont déroulés depuis vendredi matin. Succès Masra est arrêté donc vendredi 16 mai, deux jours après le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs à Mandakao. Donc c'est une localité située non loin de Benaïmar dans le Logone occidental au sud du pays, comme l'a dit Moussa. Dans la foulée de l'arrestation, le procureur de la République prend la parole et accuse le président des transformateurs d'avoir incité, à travers des messages publiés sur les réseaux sociaux, les populations du sud du pays à s'armer contre les populations nomades vivant dans cette même région. Un peu plus tard, dans la journée, trois ministres du gouvernement tchadien, dont celui de la sécurité publique et de l'administration du territoire, donnent une grande conférence de presse. Et lors de cette prise de parole, les ministres qui reviennent de Mandakao déclare que le massacre est soigneusement planifié et parti d'un audio en langue Gambay diffusé sur les réseaux sociaux. Un audio bien sûr attribué à Succès Masra, car il faut préciser que le Gambay est la langue maternelle de l'ancien Premier ministre, parlé majoritairement par les populations chrétiennes du Logone occidental.
Et cet audio, Victor, on en trouve d'abord la trace, notamment sur Facebook.
Oui, des publications récentes d'abord sur des comptes plus ou moins connus relaient en masse un audio en langue Gambay présenté comme étant le fameux audio mentionné par les ministres et le procureur. Alors si certaines publications ne présentaient qu'une version partielle de l'audio, voire modifiée hein, selon les avocats de Succès Masra, nous nous sommes procurés la version originale du message dont parlaient les autorités. Et c'est là que nous pouvons enfin revenir en 2023. Puisqu'après quelques recherches, nous avons pu authentifier la voix de Succès Masra sur ce message audio, notamment en retrouvant l'original. Et cet original, il a été publié sur YouTube le 26 mai 2023 sur la page officielle des transformateurs sous le nom « Appel à l'autodéfense ». Il s'agit bien du même audio que celui brandi par les autorités tchadiennes dans cette affaire et qui date donc de 2023.
Voilà une information qui fera réagir les auditeurs évidemment tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Moussa, vous avez une dernière question, allez-y.
Ah oui, effectivement. Est-ce qu'on connaît la stratégie des Masra pour défendre leurs clients?
Alors, la stratégie des avocats, Victor Moria, que sait-on à l'heure actuelle?
Alors pour l'instant, c'est un peu tôt, hein, puisque les avocats n'ont pas encore accès au dossier d'instruction. Succès Masra n'a même pas encore été présenté à un juge. Il est actuellement encore auditionné par les enquêteurs de la police judiciaire. Je ne peux donc pas vous dire quelle sera la stratégie de défense, mais je peux en revanche vous donner quelques éléments de contexte. L'appel à l'autodéfense de Succès Masra intervient donc en mai 2023, on vient de le dire, après une série de massacres de cultivateurs par des éleveurs. C'est donc l'inverse de ce qui s'est passé à Mandakao, dans cette même région du Logone occidental. Dans son audio, le président des transformateurs, alors en exil, demande à ceux qu'il appelle ses frères de s'organiser et donc de s'armer pour stopper les massacres. Certaines sources proches du pouvoir affirment que cet appel a eu, 2 ans plus tard, une influence sur les auteurs du massacre de Mandakao. Et quant à la défense, elle assure que les propos de Succès Masra appelaient à l'autodéfense et non à l'attaque de populations innocentes.
Oui, pour conclure, Victor Moria, il faut aussi noter que ces accusations d'incitation à la haine contre Succès Masra, elles ne sont pas nouvelles.
Non, selon ses avocats, elle faisait partie des raisons qui avaient déjà poussé les autorités tchadiennes à délivrer un mandat d'arrêt international contre le président des transformateurs. C'était en juin 2023, donc quelques jours après l'enregistrement de cet audio. Mandat d'arrêt qui, selon eux, a été rendu caduque par les accords de Kinshasa, puis par l'amnistie décrétée par le président Mahamat Idriss Déby lorsque Succès Masra est rentré d'exil, et ce, avant qu'il ne devienne Premier ministre.
Moussa, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, effectivement, Juan, merci à Victor et permettez-moi de remercier toute l'équipe qui sont dans l'ombre, qui vous aide à réaliser l'émission du lundi au vendredi.
Bah, merci à vous et merci de penser à eux. Cette émission, elle se fait effectivement grâce à toute une équipe qui m'aide au quotidien à vous présenter Appel sur l'actualité. Moussa, bonne journée à Ngouri. On salue tous ceux qui nous écoutent donc dans la région du lac Tchad. Victor Moria, on suit évidemment l'évolution de ce dossier avec vous à N'Djamena. D'autant qu'aujourd'hui, ce matin même, peut-être Succès Masra devrait être entendu par les enquêteurs. 10h17 ici à Paris. On repasse au standard. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour, monsieur Juan.
Bienvenue. Ah, vous êtes à Conakry, c'est ça ?
Effectivement, je suis à Conakry.
En Guinée. Vous avez des questions sur la demande de levée d'immunité de l'ancien président congolais Joseph Kabila ?
Effectivement, cette demande de levée d'immunité est dans une phase très décisive au Sénat congolais. Mmh. Alors, j'aimerais savoir quelle est la composition politique de cette commission spéciale du Sénat congolais. Ensuite, à savoir aujourd'hui, est-ce que les éléments réunis sont plutôt favorables ou défavorables à l'ancien président ?
Oui, l'ancien président, qui, je le rappelle, est accusé par les autorités de collusion et de complicité avec l'AFC-M23 qui contrôle une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour Patient Ligaudi.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, Joseph Kabila, ancien président mais sénateur à vie. Et à ce titre, il a donc une immunité. Et effectivement, comme le rappelait Mamadou à l'instant, une commission spéciale du Sénat a été créée pour examiner la demande de levée d'immunité. Commission qui est composée d'une quarantaine de membres, il me semble. Hein.
40 membres.
40.
Donc, la commission spéciale est bel et bien constituée. 40 membres issus des différents groupes politiques représentés au Sénat. Mais dans les faits, la majorité présidentielle y est ultra dominante. Il n'y a qu'un seul membre de l'opposition, c'est le sénateur Nawej Yav Robert, qui est membre du parti de Moïse Katumbi. Le bureau de la commission est lui aussi entièrement contrôlé par la majorité. Il est dirigé par Christophe Lutundula, ancien magistrat, ancien vice-premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, c'est sénateur et proche du président Félix Tshisekedi. Le vice-président de cette commission, c'est Aristide Boulakali, lui également de l'UDPS, le parti présidentiel. La rapporteure donc, s'appelle Carole Aguito, autrefois membre du PPRD de Joseph Kabila, aujourd'hui a rejoint l'Union Sacrée. Et on a comme rapporteur adjoint Jacques Lungwana, qui est du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, également membre de la majorité présidentielle.
Oui, donc la majorité présidentielle ultra-dominante, comme vous le disiez, au sein de cette commission spéciale. Patient Ligaudi, à l'heure actuelle, d'après vos informations, est-ce que les éléments réunis sont plutôt favorables ou défavorables à Joseph Kabila ?
Alors, à ce stade, les éléments présentés sont défavorables à Joseph Kabila. Si on s'en tient à ce que dit le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, si on s'en tient à ce que dit le ministre de la justice, si on s'en tient également à ce que dit la justice militaire. La commission travaille, comme vous le savez, sur la base du réquisitoire donc de l'auditeur général près la haute cour militaire qui accuse l'ancien président d'être complice de la rébellion AFC-M23. Selon ce réquisitoire, Joseph Kabila aurait apporté un soutien à ce mouvement et le procureur cite notamment les déclarations d'un certain Eric Nkuba-Chebandou qui est un ancien membre de l'AFC-M23.
Un proche de Corneille Nanga.
Proche de Corneille Nanga qui lui a été arrêté et qui aujourd'hui est condamné à mort et à Kinshasa. D'après ses proches de Corneille Nanga, Kabila aurait eu des contacts directs avec Corneille Nanga et aurait même assisté à Kampala en mai 2023 à une conversation où il était question d'un plan rwandais pour assassiner Félix Tshisekedi. Toujours selon ce témoin, Kabila aurait proposé de le renverser politiquement sans recourir à la violence, donc sans assassiner Félix Tshisekedi. Mais ce sont des déclarations à charge qui devront être examinées par la commission. Kabila n'a pas encore été entendu, mais on sait qu'une invitation lui a été adressée hier.
Effectivement, il est invité aujourd'hui, je crois, normalement, par le président de la Chambre, pour une séance donc devant cette commission.
Est-il que Joseph Kabila n'est pas en RDC, voilà. Et donc il est à Harare d'après nos informations. Reste à savoir s'il y aura, on va dire, un de ses avocats qui va se présenter.
Ouais. Vous avez une dernière question, Mamadou ?
Effectivement, la dernière question est de savoir quelles sont les conséquences pour l'ancien président si le Sénat décide de lever son immunité.
Alors là, on est un peu dans les scénarios un peu fiction, effectivement. Passion Ligodi, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, si le vote a lieu, donc si la levée de l'immunité de Joseph Kabila s'est faite, donc Joseph Kabila pourrait être poursuivi par la justice militaire. Cela ouvrirait la voie donc à des poursuites pénales pour trahison, on l'a dit, participation à un mouvement insurrectionnel et même crime de guerre. Il pourrait être jugé et même en son absence, on sait par exemple que Corneille Nanga lui également est condamné à mort, il a été jugé par contumace. Mais attention, le vote n'a pas encore eu lieu, donc il va falloir regarder, et même si cela apparaît comme anecdotique, la position des sénateurs de l'espace Katanga, région d'origine de Joseph Kabila. Ils sont à 16 sur 109 et beaucoup d'entre eux sont hostiles à cette procédure. Le rapport de la commission est attendu donc dès ce mercredi. Il devrait permettre au Sénat de pouvoir trancher, soit déclasser la demande, soit lever l'immunité du sénateur à vie Joseph Kabila. Dans tous les cas, c'est une première historique.
Et on suivra ça avec vous, notamment Patient Ligodi du service Afrique de RFI. Mamadou, voilà pour nos explications. Êtes-vous satisfait ?
Très satisfait. Merci et je vous souhaite une excellente journée.
Et je souhaite également une belle journée à tous ceux qui nous écoutent à Conakry, en Guinée. Patient Ligodi, à très très vite. Vos explications sont d'ailleurs à réécouter à tout le moment sur l'application RFI Pure Radio et sur notre application, la chaîne WhatsApp de l'émission RFI Appel sur l'actualité. 8h23 en temps universel. On va parler de la Roumanie. On a des questions après l'élection de dimanche. Bonjour Amat.
Bonjour Juan, bonjour à vos milliers de fidèles auditeurs.
Et vous faites partie, j'ose espérer, de ces nombreux auditeurs fidèles à l'émission. Vous êtes à Mao, à 300 km au nord de N'Djamena. Nous vous écoutons.
Juan, j'ai appris sur les ondes de la RFI qu'en Roumanie, c'est finalement le candidat pro-européen qui a remporté la présidentielle. Alors que l'extrême droite était pourtant largement en tête au premier tour. Comment expliquer ce revirement de situation ?
Ah, c'est vrai que ça a été une élection surprise. Hein. Et lors du premier tour, le candidat de l'extrême droite avait même recueilli 2 millions de voix de plus que le candidat pro-européen. Bonjour Catherine Durandin.
Bonjour.
Professeur émérite à l'INALCO, spécialiste de la Roumanie. Le maire de Bucarest a donc remporté ce scrutin avec 54% des voix. Le candidat de l'extrême droite, lui, en a recueilli 46%. Comment le candidat pro-européen a-t-il réussi à rattraper un tel retard, le retard du premier tour ?
Bon, d'abord, je crois qu'avant de s'interroger sur ce plan-là, il faut tout de même souligner que le candidat d'extrême droite a fait un score important, 43%, et plus important qu'au premier tour où il n'avait que 41%. Donc, pour ce candidat, c'est un échec, ce n'est pas véritablement une catastrophe pour l'extrême droite.
Maintenant, Catherine Durandin, vous nous dites, avant d'expliquer ce qui s'est passé, il faut quand même souligner qu'il faut relativiser l'échec de l'extrême droite.
Il faut relativiser l'échec de l'extrême droite, qui est très puissante, et Simeone a fait un bon score. meilleur que celui qu'il avait fait le 4 mai lors du premier tour.
Ouais. Mais au premier tour, il avait quand même 20 points d'avance.
Il avait 20 points d'avance. Alors maintenant, comment Danny Couchard a pu remonter la pente? Un, parce que c'est quelqu'un qui s'est présenté et qui est indépendant. Il n'appartient pas à un parti politique. Or, les partis politiques, sauf celui de l'extrême droite, sont profondément décriés, ont déçu les libéraux, tout comme les socialistes. Donc, il est indépendant, libre. Deux, en tant que maire de Bucarest, il avait fait du bon boulot, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption, qui a été apprécié, et il était assez populaire en tant que maire de Bucarest. Trois, c'est un type extrêmement posé, extrêmement calme, et qui ne promet pas monts et merveilles. Il a expliqué que la situation économique était difficile, la situation financière également. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, il est au ministère des Finances et il commence à composer son gouvernement. Il n'y a eu aucune promesse un petit peu scabreuse, à la différence de ce qu'a fait Simeone.
Oui, Simeone qui a d'ailleurs promis au premier tour aux Roumains des appartements à 35 000 euros. Il a évidemment été interrogé sur cette promesse électorale par la presse et lui-même a dit, bon, allez, effectivement, des appartements à 35 000 euros, c'est plutôt un argument de marketing.
Il a dit exactement ça, c'est un argument de marketing. C'était quand même extraordinairement maladroit ou du moins méprisant pour ses électeurs potentiels. C'est peut-être pas le plus grave dans tout ce qui a été comme poubelle déversée dans cette période. Le gros handicap qu'il a, c'est que, un, il a un passé violent. Il a été très violent en Moldavie il y a une dizaine d'années. Interdit de séjour en République de Moldavie. Pour les Roumains, c'est pas bon parce qu'ils sont très attachés à la Moldavie ou à leurs frères moldaves qui parlent roumain et russe. Il a interdit de séjour en Ukraine où il a conduit des provocations en faveur de la minorité roumaine en Ukraine, en Bukovine, donc interdit de séjour en Ukraine. Si vous voulez, c'est au-delà du politique, hein, c'est un peu comportemental. Ensuite, il a essayé de singer le grand héros des élections roumaines qui a été interdit de candidature au mois de mars, c'est-à-dire Calin Georgescu, qui était tombé de la lune au mois de novembre 2024 avec 23% des voix sans avoir fait de campagne. Calin Georgescu, le mentor de Simeone, est un homme extrêmement structuré, qui a une idéologie forte et construite. Il a plus de 60 ans. Il a eu une carrière de haut fonctionnaire dans l'appareil d'État roumain. Simeone n'a pas ces qualités. Alors, comment il l'a singé? Il l'a singé d'abord en faisant ce qui ne lui convenait pas. Ça n'aurait pas pu convenir à lui, à Simeone, en n'apparaissant pas dans les débats pendant tout un moment. Bon, quand Georgescu fait ça, c'est pour dire « je ne suis pas dans la mêlée médiocre ». Quand Simeone fait ça, c'est une façon de dire « je ne suis pas capable de répondre vraiment très brillamment à toutes les questions qu'on pose ».
Catherine Durandin, on pourrait passer des heures effectivement à décortiquer le portrait des deux candidats en lice. En tout cas, Nikos Urdan est le vainqueur de cette élection présidentielle. Il y a eu une forte mobilisation de l'électorat. C'est vrai que le taux de participation est très élevé, 65%. Je crois que c'est du jamais vu depuis le milieu des années 90. Depuis la première alternance post-communiste. Reste avec nous un instant, le temps passe très vite. Amat a une dernière question à vous poser et je comprends qu'il se la pose. Allez-y, Amat.
Bon, est-on sûr qu'il n'y a pas eu d'ingérence lors du second tour contre Romain à l'élection de novembre dernier?
Alors ça, c'est une bonne question, Catherine Durandin. Élection présidentielle en novembre, annulée par la Cour constitutionnelle en raison de soupçons d'ingérence. Quid de ce scrutin?
Alors l'annulation, ce ne sont pas des soupçons d'ingérence. L'ingérence a été démontrée.
Prouvée.
Et si vous voulez éprouver, et si vous voulez avoir toutes les informations, vous allez sur le site du Premier ministre français, l'élément qui s'appelle Viginum, et vous avez vraiment toute la démonstration de toutes les interférences, ingérences,
paiements, financements. Notamment via TikTok, ingérence en faveur du candidat de l'extrême droite. Simplement, il nous reste 40 secondes, Catherine Durantin. Est-on sûr qu'il n'y a pas eu d'ingérence cette fois?
Très gros travail du gouvernement roumain, une alerte vis-à-vis des citoyens qui en ont assez de ces histoires d'ingérence et qui ont été extrêmement prudents dans leur lecture et dans leur méditation, interrogation personnelle. Donc ce sont des élections tout à fait approuvables, acceptables.
En tout cas, le fondateur de Telegram a accusé les Occidentaux et notamment les autorités françaises d'avoir cherché à réduire des voix conservatrices au silence en Roumanie. Voilà ses propos, des propos dénoncés dénoncée notamment par le ministère français des Affaires étrangères. Merci Catherine Durandin d'avoir été avec nous, professeure émérite à l'INALCO, spécialiste de la Roumanie. Amat, bonne journée à Mao. Je m'excuse pour Lamine qui patientait au standard, mais nous avons été un peu trop bavards ce matin, Lamine. Donc si vous êtes disponible, on vous rappelle demain matin et on se fera un plaisir de vous répondre en direct. 33 9 693 693 70, le standard reste ouvert. Vous continuez à nous appeler pour vos questions à la rédaction, on y répondra demain. Et vous nous appelez évidemment pour notre débat du jour. Dans 10 minutes, nous parlerons de